le continent.
La Banque mondiale et d'autres économistes spécialistes des finances sont sceptiques quant à la viabilité économique de ces nouveaux chemins de fer. Les estimations pour la justification du chemin de fer au Kenya dépendent vraiment de la possibilité de respecter l'objectif du fret. Cela dépendra aussi, dans une large mesure, de la capacité des Chinois et des Kenyans à coopérer pour trouver les compétences et les connaissances nécessaires pour exploiter et entretenir le réseau ferroviaire afin de le rendre durable.
Il est encore prématuré de dire si oui ou non le Mandaraka Express sera un moteur de progrès pour tous les Kenyans. Mais il ne fait aucun doute, c'est d'ores et déjà une victoire pour Pékin.
Avant de réagir sur ce reportage, j'accueille mes invités en direct de Dakar, Adama Gaye, journaliste spécialiste de la Chine. Vous êtes notamment l'auteur de Chine-Afrique, Le Dragon et l'Autruche. Et à mes côtés en studio, Betty Ayoub, journaliste reporter d'images ici à La Voix de l'Amérique. Et vous êtes l'auteur du reportage que l'on vient de voir. Et vous avez notamment travaillé avec Chen Yu et Paul Ndio, deux autres confrères de VOA. Donc Betty Ayoub, ce train, vous l'avez pris. Parlez-nous de cette expérience.
Oui, donc on a pris le train de Nairobi à Mombasa. Et le train est très moderne. Le trajet a pris 4h30, ce qui est notamment au moins le... Ça prenait le double du temps avec l'ancien train qui était qu'on appelait le Lunatic Express et qui a été construit par les Anglais.
Alors ce projet, hein, il coûte cher, on a dit, 5 milliards de dollars. Quelles sont les retombées économiques attendues?
Donc selon Kenya Railway, le nouvel train va bénéficier de l'économie kenyenne. Et puis surtout avec le transport des marchandises par le port de Mombasa. Mais il y a des économistes, des avocats comme Okita Mtata qu'on a vu dans le reportage, qui disent que le Kenya n'a pas étudié ce projet et qu'ils ont en effet payé plus que la Tanzanie et l'Éthiopie pour leur train.
Mais est-ce que ce projet est vecteur d'emploi et de transfert de technologie?
Oui, en effet, il y a des centaines de compagnies chinoises qui embauchent des dizaines de milliers de travailleurs kenyans. Et aussi le Kenya Railway Training Institute, ils ont éduqué et formé plus de 1000 élèves qui maintenant travaillent pour le SGR.
Alors, Adama Gaye, hein, ici on parle beaucoup d'infrastructures, mais ce n'est pas le secteur où les Chinois investissent le plus finalement en Afrique, n'est-ce pas?
Et les Chinois sont en Afrique d'abord pour les ressources naturelles, pétrole, gaz et autres du continent africain, mais aussi avant tout pour des considérations géopolitiques. La Chine est en Afrique pour contenir les prétentions diplomatiques de Taïwan, que la Pékin continentale considère comme partie intégrante de son espace. Donc la question des infrastructures est venue sur le tard comme un élément additionnel de l'intervention de la Chine sur le continent africain.
Mais pourtant, on met plutôt en avant la coopération économique. Mais là, vous parlez d'aspect politique.
Oui, la coopération économique est ce qui apparaît en première ligne comme le plus impressionnant. Parce que quand la Chine est revenue sur le continent au début des années 2000 en particulier, cette coopération était très faible, peut-être 10 millions à 1 milliard de dollars maximum. Aujourd'hui, on parle de 150 milliards de dollars d'échanges commerciaux, ce qui fait de la Chine le principal partenaire commercial de l'Afrique. Donc c'est des chiffres étourdissants, mais en réalité, il ne faut jamais perdre de vue que la Chine a une ambition géopolitique, une ambition impériale qu'elle déploie sur le continent africain. Et ce n'est pas pour rien que lors du dernier sommet qui vient de se tenir en Chine, du Forum de coopération Chine-Afrique, le président Xi Jinping a énoncé et dicté ce qu'il appelle ses 5 principes de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il ne va pas tolérer. Donc 8 principes qu'il a avancés qui montrent que la Chine s'inscrit dans une continuité. Depuis que le premier ministre chinois de l'époque, Zhou Enlai, après le triomphe du communisme en 1949, est venu sur le continent pour la première fois en 1963, la Chine poursuit des ambitions politiques sur le continent africain. La dimension économique est venue après en raison de l'émergence économique de la Chine.
Alors, que pensez-vous de ces dettes contractées par les États africains? Est-ce que l'investissement est à la hauteur des bénéfices?
Je vais vous dire une confession. Il y a une dizaine de jours, j'étais en Norvège à une grande conférence sur le pétrole et j'ai rencontré une importante autorité kényane. Et à l'occasion de cette rencontre, dans une rencontre privée, il a dit que le Kenya ne va plus prendre de dette chinoise, que c'est trop, c'est inacceptable. Alors, il y a aujourd'hui un questionnement sur l'importance des flux annoncés par la Chine. Si vous prenez par exemple le train qui est évoqué dans ce reportage à un coût de 5 milliards de dollars, vous pouvez le comparer au plus grand projet de l'époque de la Chine sur le continent africain. Dans les années 1960-1970, c'est ce qu'on a appelé le Tazara, Tanzanie Zambia Railway. Quand la Chine communiste, malgré ses difficultés, avait décidé contre les résistances de la Banque mondiale de financer ce projet. Ce grand projet n'avait coûté que 500 millions de dollars, au maximum 466 millions de dollars. Et c'était le grand projet, la signature de la Chine sur le continent africain. Là, nous parlons des milliards de dollars. Tous les projets pratiquement d'infrastructures que la Chine fait sont quelque part surévalués, surfacturé, ce qui fait que ça élimine tous les avantages qui peuvent être portés par la concessionnalité de certains de ces projets. Je pense qu'il est grand temps que les pays africains évaluent à travers ce qu'on appelle value for money, la valeur de l'argent, n'est-ce pas, par rapport au prêt qu'ils acceptent de prendre de la Chine pour ne pas être les perdants à l'arrivée. Je pense qu'il y a un problème sérieux là.
D'accord. Alors, on va passer à une autre question soulevée par ce projet de chemin de fer au Kenya, c'est le déplacement des populations et leur dédommagement. Le gouvernement a promis des emplois pour les locaux et des compensations pour les propriétaires, mais certains Kenyans attendent toujours. Regardons.
C'est son littoral calme et ses savanes scintillantes, à son chaos urbain et ses bidonvilles. Le Kenya est une terre de grande beauté et de contradictions. Alors que les Kenyans cherchent à stimuler leur économie émergente, ils ont établi un partenariat avec les Chinois, en accumulant des milliards de dollars de dettes chinoises pour le plus grand projet de construction au Kenya, le chemin de fer à voie normale, le SGR. Le 31 mai 2017, le Kenya a ouvert la première phase allant de la ville portuaire de Mombasa à Nairobi. À environ 30 km au sud-ouest de Nairobi se trouve Ngong, une ville autrefois habitée principalement par les Maasai, nomades qui contrôlaient cette partie de l'Afrique avant l'époque coloniale. En se dirigeant vers l'Ouganda, au nord, le SGR traverse le pays Maasai. Baba est un aîné Maasai respecté et qui possède et habite sur ces terres en Ngong depuis plus de 30 ans.
Nous sommes dans ce village depuis très longtemps, bien avant l'arrivée de la voie ferrée. Ma terre n'est pas grande, mais le chemin de fer en a pris 10 acres.
Vous ont-ils dédommagé?
Non, rien.
Avez-vous signé un contrat avec eux? Comment avez-vous vendu votre terrain sans contrat écrit? On leur a dit d'attendre le gouvernement et ils l'attendent jusqu'à présent.
Cela fait un an et quatre mois, ils n'ont rien payé. Nous ne savons même pas quelle est la compensation.
Plus récemment, le président kényan, Uhuru Kenyatta, a ordonné à son gouvernement d'accélérer l'indemnisation des propriétaires fonciers. China Road and Bridge Corporation a déclaré que 9 travailleurs de la construction sur 10 sont des Kenyans. La tension sur les emplois a déclenché des protestations et des violences. Une autre manifestation est devenue mortelle.
C'est
là où le garçon a été abattu pendant la manifestation. Là où se trouve cette porte bleue.
Les Maasai locaux ont déclaré qu'un groupe d'hommes s'est rendu au camp de construction du SDR à la recherche de travail. Dans une déclaration exprimant ses condoléances, China Road and Bridge Corporation a affirmé que la fusillade du 6 janvier 2018 était une légitime défense face à une foule menaçante. Mais la famille Kiraison a déclaré que leur fils Joseph n'était pas armé. Ils veulent l'officier qui a tiré le coup de feu arrêté et une indemnisation pour la vie de leur fils aîné.
Mon fils a été tué par balle sans aucune raison. Est-ce normal?
30 minutes après que mon fils est allé au camp chinois pour demander du travail, j'ai commencé à me sentir malade et mon corps me faisait mal. Et quand j'ai entendu parler de la fusillade, j'ai tout de suite su que c'était mon fils qui avait été abattu.
Je blâme le gouvernement et la société chinoise pour la mort de mon fils.
Bien que de nombreux Kenyans aient accueilli le train construit en Chine pour sa commodité et l'espoir d'une certaine prospérité, ici, sur la route, certains disent que le SGR n'a fait qu'aggraver leur situation.
Des Kenyans visiblement inquiets et pour cause Betty Ayoub, la question des dédommagements reste en suspens, n'est-ce pas?
Oui, comme on l'a vu dans le reportage dans le cas de Bab, le chef Maasai, les constructeurs du SGR, ils font ce qu'ils appellent early entry. Donc ils vont, ils cherchent les propriétaires des lopins de terre par où le train veut passer. Et il leur donne un petit peu d'argent et il leur demande la permission de commencer la construction en attendant que le gouvernement vienne et leur paye le reste. Mais personne ne vient et les propriétaires, ils ne savent pas d'où chercher l'argent, ce qu'il leur dû pour leur terre.
Mais comment l'expliquer?
Donc, je ne peux pas l'expliquer vraiment, mais après notre retour, le directeur général de Kenya Railway et le président de la commission foncière ont été accusés et arrêtés pour corruption et fraude fiscale. Nous avons appelé, on a essayé de demander une interview des représentants du gouvernement, de China Road and Bridge Corporation. On a même appelé l'ambassade chinoise pour poser toutes ces questions et avoir des réponses, mais personne ne nous a répondu.
Et le rachat des terres, ce n'est pas le seul problème?
Non, il y a plein de problèmes. On a rencontré plein de gens en route. Alors, on a rencontré Grace Kimani, qui vit à Olosilkan, à côté de Nairobi National Park, et ils font des constructions juste à côté de sa maison, et des explosions. Tous les jours, il y a une explosion. À cause des explosions, sa maison est en train de s'écrouler. Donc, elle vit avec ses deux filles dans une maison qui peut s'écrouler à n'importe quel moment. Et puis, personne ne l'aide, personne ne lui répond. À Mariakani, au nord de Mombasa, on passait par là-bas, on avait des étudiants dans des hangars. Et on a appris que l'école, leur école a été démolie parce que le train devait passer par là-bas. Kenya Railway a promis de construire une plus grande école, mais ça fait 4 ans. Que la construction se passait, c'est pas fini. Mais c'est pas tout négatif. À Mariakani aussi, on a rencontré un propriétaire qui s'appelle Ketiu. Et Ketiu a vendu son lopin de terre parce que le train passait par là-bas. Et sur cette terre, il y avait le cimetière de toute sa famille qu'il a dû bouger pour le train. Mais il a été payé. Il a été payé pour la terre et il a été payé à peu près $500 pour chaque tombe.
Alors, vous avez aussi recueilli des témoignages faisant état de racisme. De quoi s'agit-il exactement?
Donc, on a rencontré un journaliste qui nous a raconté que les Chinois, normalement, sont racistes avec les Kenyans, qui les gifent parfois aussi.
Des travailleurs?
Des travailleurs. Et ça, c'était un problème qu'il a dit. Ça a créé beaucoup de tensions entre les managers chinois et les employés kenyans. Et dans un cas qui s'est passé à Narok County, un ouvrier a été giflé par un Chinois et ceci a abouti à une émeute où plusieurs Chinois ont été blessés. Maintenant, dernièrement, Kenya Railway a commencé une investigation sur des plaintes que les Chinois gardent les positions les mieux payées pour eux-mêmes et puis qu'ils maltraitent leurs employés.
Alors très rapidement, avant d'aller au break, hein, Adama Gaye, à qui la faute? Les gouvernements africains font-ils le nécessaire pour assurer le respect de la dimension humaine dans ces projets? Très rapidement.
Ah non, ils ne font pas ça. Et je crois que le plus grand problème, c'est les conditions dans lesquelles ces contrats sont négociés sont trop obscures. C'est comme si les officiels africains n'étaient intéressés que par les commissions qu'ils recevaient dans les deals. Même s'ils étaient surfacturés, ça leur permettait d'avoir quelque chose à se mettre dans la poche et ils ne s'occupaient pas de ce qui se passe après. Alors on rapporte un peu partout que sur les chantiers chinois, il y a des violences sexuelles, il y a des exploitations sexuelles, il y a un manque de respect n'est pas des populations locales, et donc tout cela fait qu'à l'arrivée, le racisme dont on parle est encore accentué, parce que les Chinois voulaient rencontrer un peu partout. Moi-même qui parle un peu le mandarin, quand j'essaie de parler à des Chinois dans les lieux de Dakar et un peu partout en Afrique, je constate qu'ils refusent même de répondre. Il y a véritablement un problème.
Adama,
parce que la
je suis obligée de vous couper. On marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Retour avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur les relations sino-africaines. Pour en parler, Adama Gaye, journaliste de la spécialiste de la Chine, auteur de Chine-Afrique, Le Dragon et l'Autruche, et Betty Ayoub, journaliste reporter d'images à La Voix de l'Amérique. Je propose qu'on s'intéresse aux conséquences que peuvent avoir ces investissements sur l'environnement. Au Kenya, le nouveau chemin de fer passe par des réserves naturelles d'une grande valeur. Les Kenyans sont nombreux à s'insurger du fait que le train coupe en deux le parc national de Nairobi, un parc situé près de la capitale et qui abrite des centaines d'espèces.
Nairobi, la capitale kenyane, compte près de 4 millions d'habitants. Aucune autre grande ville au monde ne dispose d'une faune sauvage aussi abondante, tout juste dans sa banlieue.
Ici, c'est l'équivalent de Central Park à New York.
Trish Hayes est depuis des années un fan du parc national de Nairobi. Situé en rivière de la capitale kenyane, le parc abrite des animaux menacés comme les rhinocéros, mais aussi des buffles, des girafes, au total plus de 400 espèces. Les colons britanniques l'ont protégé dans les années 40 et le parc a demeuré intact jusqu'à ses récentes années. Le gouvernement kényan a décidé de faire passer en plein cœur du parc un chemin de fer construit par les Chinois, divisant en deux la réserve naturelle tant adorée et déclenchant du coup une levée de boucliers. Les opérateurs du projet disent avoir été pris de court. Jusqu'à sa mort en début d'année, Sidney Kountai menait la coalition luttant contre ce tracé du chemin de fer. Selon lui, le projet a commencé bien avant que la plupart des Kenyans comprennent où passerait le train.
Au cours de l'année écoulée, nous avons vu une très grave menace contre notre parc national.
Dans sa précipitation à créer des emplois, le gouvernement kényan n'a pas mené une étude adéquate de l'impact écologique du projet, déplore les critiques. L'avocat Okiya Omtata Okoiti est séjoint à une action judiciaire contre le projet.
J'ai obtenu des injonctions bloquant la phase 2 jusqu'à ce qu'un minimum soit réalisé, comme l'étude de l'impact écologique du projet par exemple.
La compagnie ferroviaire kenyane et les constructeurs chinois ont refusé de répondre aux questions de la VOA ou d'accorder des interviews sur le parc national de Nairobi. Toutefois, le service kenyan de protection de la faune a permis à la VOA de visiter le parc de Tsavo, dans le centre du pays, pour constater l'impact du projet ferroviaire. Le premier tronçon Nairobi-Mombasa a été mis en service il y a un an. Il traverse quelques 13 000 km² de réserves naturelles. Une route très utilisée et un ancien chemin de fer divisaient déjà le parc. Les Chinois ont construit 8 passerelles en vue de permettre à la faune sauvage de circuler librement. Dr Ben Okita de l'ONG Save the Elephant utilise des colliers GPS pour surveiller les mouvements des éléphants. Les cartes enregistrant ces déplacements montrent que les pachydermes sont confus.
Il y a des points de passage, mais vous pouvez voir que dans certaines zones, les animaux ont du mal à les utiliser. Ils veulent bien passer, mais ne le peuvent pas. Alors, ils font des 100 pas.
Le projet est de prolonger la voie ferroviaire vers le nord jusqu'à la frontière ougandaise. Pour les personnes vivant depuis des années en bordure du parc national de Nairobi, le gouvernement a tourné le dos à l'héritage de cette réserve naturelle. Le centre Kitenge la glace est situé au bout d'un long chemin de terre à Ossilikron, au sud du parc. Son fondateur, Nani Cruz, a collecté des coupures de presse sur toutes les tournures du projet de chemin de fer.
Nous avons si peu d'animaux, animaux sauvages, animaux africains. Où les trouvez-vous? Au Kenya. Un trésor pour le monde. Et vous venez le vendre aux Chinois pour un chemin de fer? Allez au diable.
Le parc national de Nairobi a franchi le point de non-retour.
Adam Agaï, les projets chinois ne sont pas les seuls à endommager l'environnement. Est-ce qu'on leur fait un faux procès?
Écoutez, on ne peut pas dire qu'on leur fait un faux procès. Ils font partie du problème. Les Chinois n'en font qu'à leur tête. Quand ils viennent, ils négocient avec les gouvernements, les populations, la société civile. Les parlements ne sont pas associés aux discussions, de sorte que les résultats qui sont obtenus sont des résultats qui ne procèdent que de la tête des dirigeants chinois et chefs d'entreprise qui viennent ici avec le dracolite sur le terrain en Afrique. Le grand problème, c'est que c'est la structure verticale de du pouvoir chinois qui est autoritaire et sur laquelle structure les dirigeants africains politiques se trouvent véritablement à l'aise, sont très à l'aise de coopérer avec les Chinois qui leur donnent l'argent, qui leur permettent de faire leur projet très rapidement pour pouvoir être inaugurés, aller dans les campagnes électorales, essayer de les gagner en s'imposant. Je crois que même si les autres ont pu imposer des projets et des financements dans des conditions assez problématiques, quand il y a des critiques, ces critiques-là sont tenues en compte. Alors que dans le cas de la Chine, même le gouvernement chinois ne semble pas véritablement taper sur la table. Souvenez-vous en 2007, quand l'ancien président chinois...
Adam Agaï, puisqu'il nous reste très peu de temps, je vous relance rapidement. N'est-ce pas au gouvernement de poser leurs conditions, puisqu'à la sortie, c'est quand même eux qui payent, il ne s'agit que de prêts.
Il ne faut pas qu'on mette le curseur au niveau de la responsabilité des gouvernements, parce que ces gens sont irresponsables. Les dirigeants africains ont prouvé ces dernières années qu'ils sont prêts à vendre le pays pour rester au pouvoir ou pour gagner de l'argent. C'est aux populations, aux élites et aux intellectuels africains, à une société civile éveillée, à des partenaires étrangers de réviser cette problématique de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Il y a du bon, mais il y a du moins bon, et le moins bon n'est pas toujours évoqué. Il faut que les élites, n'est-ce pas, se réveillent pour en parler. Il ne faut pas compter sur les gouvernants africains qui sont plus intéressés par l'argent qu'il faut gagner pour pouvoir poser la problématique de la coopération entre la Chine et l'Afrique.
Alors en deux mots, hein, est-ce qu'on peut parler d'un partenariat gagnant-gagnant? Vous avez 15 secondes.
Mais il n'y a pas un partenariat gagnant-gagnant. Pour le moment, c'est la Chine qui gagne. Il ne faut pas se faire d'illusions, parce que la plupart des infrastructures sont contrôlées par la Chine et parfois elles ne sont pas durables, comme certains produits manufacturés qui sont de piètre qualité. Il faut que l'Afrique négocie mieux pour que l'argent qu'elle reçoit de la Chine soit utilisé à bon escient et que les entreprises chinoises qui viennent sachent qu'est-ce que l'Afrique veut.
Adam Agaï, ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup à vous, Adam Agaï, et à vous, Betty Ayoub, d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi et à l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Au revoir.